Quincy Jones égale Michael Jackson. C'est vrai, mais c'est incomplet. Avant d'être le producteur de la star, Quincy Jones, bientôt 84 ans, a été trompettiste, il a composé, arrangé, des cinéastes lui ont commandé des musiques pour leurs films. Stéphane Lerouge, spécialiste français des musiques de films, sort une compilation, le cinéma de Quincy Jones. Il va nous guider dans cette œuvre importante des années 60 et 70. Bonjour Stéphane Lerouge.
Bonjour Vincent.
La récréation, Vincent Josse, sur France Inter.
Pas besoin de balai pour prendre le rat, non pas de balai, vous mettez des dents. Je l'entraîne, et très loin, très loin. C'est pas la première fois que je me bagarre avec un rat, non. Pas besoin d'aide, gardez donc. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le rat, le maudit rat qui ronge dans mes provisions. Mais je vous le dis, non, il n'y a pas d'autre moyen. Ça y est, non, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le rat, le maudit rat qui ronge partout, tout comme un fou, non, il n'y a pas d'autre moyen. Mais je vous le dis, pas tenimment. M'avez l'air de ne pas y croire beaucoup, vous n'en faites pas. Je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas de baratin, ce que je vous ai dit tout à l'heure, t'as malin. Tiens, dira, il n'y a pas longtemps, tu faisais des bons. Tu ferais mieux d'abandonner, dis mon bonhomme, car moi je te vois par là-bas, partout, t'es pas malin. Défie-toi là-bas, dis, défie-toi là-bas, ton trou, si tu veux, dis mon rat, t'as oublié de le ramener, oui, dis donc, t'as beau t'en aller là, t'es perdu, mon rat.
Dis-le-ra, dis-le-ra, il est parti là-bas. Dis-le-ra, dis-le-ra, il est parti là-bas, sur toi, là. Dis-le-ra, dis-le-ra, il est parti là-bas. Dis-le-ra, dis-le-ra, il est parti là-bas, sur toi, là. Il est perdu le
Les double six, on les appelait d'ailleurs les double six de Paris. Et là, ils chantaient Rat Race, Quincy Jones.
La récréation sur France Inter.
What makes you so bitter?
Bitter? I'm a man of no anger. I have no desire for vengeance for what was done to me. I had escaped from the emotions. I am safe within myself. All I ask and want is peace and quiet.
Why haven't you found?
Because people like you will not let me.
Un extrait du Prêteur sur gage de Sidney Lumet et la BO de Quincy Jones. On est en 1964, le thème est âpre. Un homme a vu disparaître sa femme et son fils dans les camps de la mort. C'est un rescapé de la Shoah devenu prêteur sur gage à Harlem. Ça vous évoque quoi, Stéphane Lerouge, cette musique et ce film que découvre finalement, en tout cas pour la musique de film, Quincy Jones, je crois que c'est son baptême.
Oui, il avait fait un film au Danemark, je crois, mais là c'est son premier film américain, c'est presque un bizutage pour lui. En plus, c'est un grand metteur en scène, Sidney Lumet, qui vient de la télévision, qui a déjà fait 12 hommes en colère. Et ce qu'on entend là, c'est le thème principal, et dans lequel il y a un lyrisme triste, un peu tourmenté, il y a une nostalgie du passé aussi, et c'était ça un peu l'intention de Quincy sur ce personnage a priori de crevure objective, qui est le personnage de Rod Steiger, qui est un personnage dur, fermé de l'intérieur, brutal, abrupt. Mais en fait, la cassure, elle vient de son passé, de la perte de sa famille dans les camps. Et justement, il fallait que la musique éclaircisse un tout petit peu, humanise le personnage de Rod Steiger. Et c'est ce qu'a essayé de faire Quincy Jones par la musique.
On entend là de la flûte, mais il y a beaucoup de cordes dans cette BO.
Ouais, et les cordes, bien sûr, parce que Quincy Jones dit toujours en souriant que si on était noir aux États-Unis dans les années 50 et qu'on voulait écrire pour des cordes, c'était le meilleur moyen d'être au chômage. Parce que on pouvait pas, les musiciens noirs avaient le droit, les arrangeurs ou les compositeurs, d'écrire pour big band maximum, mais pas pour les cordes, ne pas toucher aux cordes. C'était le domaine, la propriété, le territoire réservé des blancs. Et donc il a fallu qu'il vienne en France, qu'il travaille notamment chez Barclay, et quand il est revenu aux États-Unis, c'est le cinéma qui lui a permis d'écrire pour cordes. Ça paraît étrange aujourd'hui, à 60 ans, simplement de décalage, d'imaginer que c'était encore... Il y avait cette sorte de ségrégation presque instrumentale, mais oui, c'était ça.
Il prend des cours avec Nadia Boulanger en France.
Oui, alors ce sont
dans
des
années
cours
50.
Dans les années 50. En fait, il suit des cours d'été au conservatoire américain de Fontainebleau, mais disons que le lien qu'il a avec Nadia Boulanger n'est pas du tout comparable à celui, mettons, de Michel Legrand, qui lui a passé vraiment 5 années pleines au conservatoire de Paris avec Nadia Boulanger. Mais c'est vrai, elle va lui donner quelques cours et un peu le guider, notamment sur l'harmonie.
Compositrice et pédagogue sévère, d'ailleurs, Nadia Boulanger.
Hein. Ouais.
On pourrait peut-être écouter un autre extrait de cette BO, si vous êtes d'accord.
Ouais.
Alors là, c'est un moment avec plus de tension et un homme qui fait des effets percussifs avec sa bouche. C'est un petit peu du beatbox avant l'heure.
Bah oui, c'est exactement ça.
On est dans les années 60. Hein.
Ouais, on est en 64 et c'est marrant parce que c'est un peu dans cette première bande originale de Quincy Jones, cette première bande originale américaine, il y a déjà comme ça des solistes, des piliers comme ça à venir, en devenir de ces bandes originales, notamment ce chanteur qui s'appelle Don Elliott. Et c'est vrai qu'il a ce talent comme ça en chantant de faire des effets quasiment qui relèvent de la percussion avec sa bouche. Et c'est dans ce thème-là, précisément, qu'on vient d'écouter, qui s'appelle Rack Them Up, que Quincy Jones va vraiment s'apercevoir de toutes les possibilités que peut lui apporter Don Elliott. Et ensuite, dans tous les films, quasiment, en tout cas dans un film sur deux, mettons, Don Elliott sera là. Et surtout, par les effets des bandes multipistes. Vous savez qu'au départ, on est en stéréo, deux pistes, après on passe en quatre pistes, en huit pistes, et par le jeu des réenregistrements par couches successives, Don Elliott va se démultiplier jusqu'à ce qu'on ait quasiment un orchestre de Don Elliott, comme ça, et plein de voix qui se répondent en écho, en re-recording.
On va écouter pendant toute cette récréation des musiques de films, pas toutes les musiques de films bien sûr, il y a 6 CD dans le coffret que vous nous proposez, mais quand j'entends une musique de film de Quincy Jones, j'entends du jazz certes, mais aussi quelque chose de classique, mais aussi de la pop, mais aussi de la soul. On entendra un peu de bossa tout à l'heure. Il est très éclectique, ce compositeur.
Bah, en fait, je pense que la problématique de Quincy Jones est également celle d'autres compositeurs de sa génération, comme Michel Legrand, comme Lalo Schifrin, qui lui est argentin.
Oui, ils se sont connus, ils se sont rencontrés assez vite. Hein.
Ils sont tous d'ailleurs passés par Paris, par Boulanger ou Messiaen, dans le cas de Schifrin. Et ce sont des compositeurs, c'est vrai qu'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, scène, ils prennent de plein fouet la déferlante du bebop, du jazz moderne, et après de la bossa nova. Et finalement, le cinéma, pour eux tous, et pour Quincy en particulier, c'est une façon de faire la synthèse de toutes ces cultures. Il n'y a pas un Quincy Jones, il y a à l'intérieur de lui-même plusieurs Quincy Jones.
Et oui, ça s'entend.
Et voilà. Et donc, finalement, le cinéma permet de canaliser tout ça, et ce qu'il a appris notamment auprès de Boulanger, son envie d'écrire pour l'orchestre, et qui se métisse aussi à sa culture de bopper, de mec de bebop, d'ancien trompettiste, de l'orchestre de Dizzy Gillespie, tout ça se mélange dans une seule voix qui est la sienne au cinéma.
Gamin de la rue, quasiment, hein, né dans une famille pauvre, il est assez autodidacte au départ en musique, il commence le piano à l'école, et il suit avec la trompette, mais j'allais dire, il se débrouille un peu tout seul au départ.
Ouais. Et puis il y a cette réputation d'arrangeur prodige qui vient très vite, de bon trompettiste également, qui intègre donc l'orchestre de Gillespie, mais c'est vrai que son image de trompettiste, donc d'interprète, et son image d'arrangeur, à la fois lui donne satisfaction, au moins il existe, mais ce qu'il a envie de faire, c'est de composer, c'est d'écrire des œuvres, d'être à la base, d'être dans la création et non pas dans l'interprétation ou l'arrangement.
M15 demande protection, ça c'est à nouveau Sidney Lumet qui fait appel aux musiciens.
Ouais. Et c'est vrai que c'est curieux parce que c'est un film d'espionnage avec James Mason et Simone Signoret. Mm-hmm. Le film s'appelle The Deadly Affair, version originale. Et Quincy Jones va écrire une partition qui est une sorte de tour de force parce que toute la musique du film, vraiment à 200%, est construite sur un seul et même thème. C'est tout.
Vous vous dites, je connais cette musique, il me semble que Nino Ferrer l'a chantée. Mais oui, en effet, Nino Ferrer a chanté les cornichons, des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons. C'est ça, Stéphane Le Rouge ?
Je ferme les yeux, j'ai l'impression d'avoir Nino Ferrer devant moi.
C'est vrai que c'est assez juste comme imitation.
Oui, c'est vrai.
En tout cas, au départ, c'est une musique de Quincy Jones.
Oui, qui s'appelle, qui est le titre d'appel d'un album, Big Band Bossa Nova. Le titre s'appelle Soul Bossa Nova. Et Quincy Jones raconte, alors ce n'est vraiment pas une légende, qu'il a écrit ce morceau en un quart d'heure. Voilà, peut-être 20 minutes, mais...
En même temps, il n'est pas très difficile à écrire.
Non, là, je pense qu'on est quand même sur quelque chose assez basique.
Assez basique.
Mais c'est curieux parce que c'est souvent... ça peut être ça, c'est-à-dire que ce thème a été recyclé ensuite tellement de fois en indicatif, dans la publicité et dans Austin Powers, dans les années 90, ça lui a assuré une sorte de pérennité, alors que je pense que Quincy Jones est infiniment plus fier, mettons, de sa partition pour In Cold Blood de Sang-Froid, le film de Richard Brooks. Mais bon, voilà, ça fait partie de ces choses comme ça, un peu dérisoires, écrites rapidement, et puis finalement qui ont plus qu'une trajectoire, qui ont un destin, quoi, mais parfois un peu décalé par rapport à la réalité musicale de la chose.
Si je vous dis Little Richard,
oui.
Qu'est-ce que vous me répondez, Stéphane Le Rouge ?
Il a travaillé avec Quincy sur une bande originale d'un film de Richard Brooks qui s'appelle Dollars.
Et le titre, c'est quoi ?
Ça s'appelle Money Is.
récréation.
Cada vez que te miro, me duele el alma. Desde que te conozco, yo no conozco ni paz ni calma. Ay, desesperas ahí, te ofrecería mi vida, toda la vida, si tú quisieras. Ay, yo te suplico, vente conmigo, que acaso no me entiendes, no me comprendes lo que te digo. Ay, solo quiero ir, que te vengas conmigo y estar contigo si no me muero. Ay, cuando yo me vaya, piensas en mí, créeme niña, te pido que no me olvido nunca de ti. Ay,
visiting my mother.
Croyez-le ou non, j'allais voir ma mère. Je suis arrivé ici à 3h25. Je venais de Brownsville. Il fallait bien que j'attende à la gare. La correspondance est à 4h20.
Mais entre-temps, t'as assommé un blanc, justement le plus important de notre petite ville, et t'as touché quelques centaines de dollars pour le faire.
J'ai honnêtement gagné cet argent en travaillant d'arrache-pied.
Les gens de couleur ne gagnent pas de pareilles sommes. Raconte pas de blagues. Dis-moi, tu l'as gagné cet argent?
Philadelphia.
Philadelphie. Mississippi.
Pennsylvania.
Pennsylvanie. Qu'est-ce que tu fais à Philadelphie pour gagner tant d'argent?
I'm a police officer.
Officier de police.
Dans la chaleur de la nuit, Stéphane Le Rouge, film important parce que film politique, film sociétal, on accuse un policier noir d'un acte qu'il n'a pas commis.
Ouais.
J'imagine qu'il y a une forme d'engagement dans le fait d'accepter la musique de ce film de la part de Quincy Jones.
Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que j'avais, avant de me retrouver devant lui, on a fait un long entretien.
Oui, qui est dans le coffret.
Pour le livret du coffret, une sorte d'entretien fleuve, vraiment, qu'on a fait, qui a duré 3 heures quasiment. Et un marathon comme ça d'interview. Et je n'avais pas mesuré à quel point l'histoire au cinéma de Quincy Jones, c'est l'histoire d'un affranchissement, d'une émancipation. C'est-à-dire qu'il l'a été, il est le premier compositeur noir à écrire des musiques de majors américaines, de films Warner, Paramount, MGM, etc. Et dans La chaleur de la nuit, puisque vous en parlez, c'est vraiment un film qui cristallise. D'abord, c'est un club, une amicale qui se reforme, puisqu'à l'écran, il y a Sidney Poitier, qui est un ami de jeunesse, qui incarne le policier en question, qui se retrouve perdu dans une petite ville du sud des États-Unis, du Mississippi. Et puis, le générique début, Quincy Jones a l'idée, c'est un blues, de le faire chanter par Ray Charles. Et c'est vrai qu'avoir ces trois noms au générique d'un même film, de Norman J. Wilson, il y a une dimension vraiment de symbole, parce que Jones a dû lutter pour arriver. Il y a une sorte de racisme presque ordinaire. Il raconte que, par exemple, sur son deuxième ou troisième film, qui s'appelait Mirage, qui est un film un polar avec Gregory Peck, le responsable musique d'Universal Pictures à l'époque, quand il a vu qu'il était noir, il lui a dit, mais attendez, mais on n'a pas besoin d'un blues dans ce film, on n'a pas besoin de gospel, écoutez, c'est pas pour vous. Comme s'il y avait un emploi qui était déterminé par sa couleur de peau. Et c'est Henry Mancini, qui était le grand compositeur de La Panthère Rose notamment, des films de Blake Edwards, qui est monté au créneau pour défendre Quincy Jones auprès d'Universal en disant, écoutez, si vous le prenez pas pour ce film-là, moi je boycotte Universal comme studio à l'avenir. Et Quincy Jones a fait le film, il a très bien réussi. Et donc, dans La chaleur de la nuit, évidemment, c'est vrai, vous avez raison, il y a une dimension presque de combat dans ce film et dans cette musique.
In the heat of the night, seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah. In the heat of the night. Motherless somehow. Stars with evil eyes stare from the skies, all mean and bright.
In the heat of the night,
ain't a woman yet before. My soul for just a little light
in the heat of the night.
In the heat of the night, I've got trouble wall to wall. Oh, yes, I repeat in the night. Must be an ending to it all. But hold on, it won't be long. Just you be strong, and it'll be all.
l'entendez il y a quelques minutes, la belle voix de Ray Charles, c'était le thème du film In the Heat of the Night. Et puis là, l'accordéon, je veux dire, non.
L'harmonica,
merci Stéphane Lerouge, de Toots Thielemans. J'ai envie de dire qu'il travaillait avec ses amis, parce que Thielemans, comme Ray Charles, étaient des amis de longue date de Quincy Jones.
Ouais, ouais. Non, mais il y a vraiment un premier cercle, vraiment d'interprètes qui sont ses fidèles à la fois de ses albums, de jazz, de pop, et évidemment de ses bandes originales. Et Toots Thielemans, souvent quand il y a un thème d'amour, un thème lyrique, qui doit rendre encore plus amoureux deux personnages à l'écran, c'est le timbre de cette harmonica magique. Toots Thielemans, c'est quasiment le Charlie Parker de l'harmonica. Et c'est assez émouvant, et parce que cette bande originale-là, précisément, de Getaway, Kidnapping, qui est un film de Sam Peckinpah, avait été mise en musique par un premier compositeur, qui s'appelle Jerry Fielding, et Steve McQueen, qui coproduisait le film avec Warner, a mis intégralement la poubelle, la bande originale en question, en disant « J'ai besoin d'une autre musique, elle ne me va pas du tout. » Et il a appelé Quincy Jones dans l'urgence, comme ça, je crois qu'il a écrit la musique en exactement 10 jours, ce qui est quasiment un record, et Toots Thielemans est venu et a joué comme ça, avec à l'image, en studio, sur un écran géant, le couple Steve McQueen et Alim Magro. Et c'est un peu un film qui, quelque part, a refermé un peu les fameuses dix glorieuses, quasiment, puisque The Pawnbroker, qu'on écoutait tout à l'heure, Le Prêteur sur gage, est 64, là, 73, donc 9 années, et c'est comme une sorte de parenthèse enchantée dans le parcours de Quincy Jones, c'est-à-dire qu'il a rêvé d'écrire pour le cinéma, il l'a fait, et puis à un moment donné, comme un enfant qui veut absolument un jouet, il a le jouet, mais il le casse, il le détruit, et puis il passe à autre chose.
Il paraît que tous les amateurs des musiques de Quincy Jones avaient envie de trouver cette BO, et qu'on ne la trouvait pas facilement, du coup c'est presque un sacré bonus là que vous apportez.
Oui, il y a celle-là, il y a la musique de In Cold Blood de Sang-Froid qui n'avait jamais été rééditée depuis le 33 Tours sorti à l'époque, c'est-à-dire il y a 50 ans aujourd'hui. Et puis il y a aussi un film, une bande que je suis très 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 content d'avoir pu exhumer, qui est la musique d'un film un peu méconnu qui s'appelle The Lost Man. Mm-hmm. Voilà, l'homme perdu. Alors là, je peux vous dire, le moment justement où on se retrouve, je me retrouve devant Quincy Jones et il me demande, alors, mais c'est quoi les trouvailles du coffret? Alors je dis, il y a notamment ça, et je lui fais écouter plusieurs extraits de The Lost Man, et il a redécouvert son propre travail. C'est-à-dire qu'il n'avait pas réécouté cette musique depuis 45 ans, et là il en a eu la chair de poule.
Ah! Récréation, Vincent Josse sur France Inter.
De quel générique s'agit-il, Stéphane Le Rouge ?
Alors, j'hésite franchement entre l'Académie des Neufs et Marie Pervenche, mais j'aurais plutôt tendance à prendre une voix médiane et à vous répondre Ironside, l'homme de fer.
Eh oui, l'homme de fer, le flic des flics cloué dans son fauteuil.
Ouais, Raymond Burr. Mmh,
parce qu'il a reçu une balle dans le dos.
Exactement, ouais.
Donc, il a composé aussi Quincy Jones pour la télévision.
Il a beaucoup écrit pour la télévision à une époque. Et pareil, il a aussi des cadences infernales, une façon, il fallait vraiment avec des délais très serré. Il avait beau aussi dire qu'à un moment de sa vie, il a beaucoup potassé un bouquin qui s'appelait Underscore, qui est un bouquin théorique qui paraît un peu en figurine comme ça, sur l'écriture, et ça lui a beaucoup appris, comme ça, à avoir une espèce de discipline comme ça, à noircir rapidement son papier à musique. Mais au bout d'un moment, je crois qu'il a aussi une lassitude, et je crois que c'est Henri Mancini qui lui a dit, mais arrête de penser que tu vas écrire l'oiseau de feu à chaque épisode de L'Homme de Fer, simplifie ton écriture, sinon tu ne passeras pas l'hiver, quoi. Et ça a été une leçon pour lui. Et là, il a un peu pris cette distance avec la télévision. Mais c'est vrai que L'Homme de Fer, le générique de L'Homme de Fer, reste pour lui une espèce de référence en matière de télévision.
Alors, on a bien entendu durant cette récréation qu'il a eu du succès, des succès, qu'il était éclectique, qu'il savait s'entourer. Et pourtant, il n'a pas eu d'Oscar de la meilleure musique de film.
Non. Et d'ailleurs, c'est ça. Il y a une sorte de fracture, en tout cas un peu de désenchantement, quoi, de se dire qu'il voit son camarade Michel Legrand qui a un Oscar pour Norman Jewison, pour l'affaire Thomas Crown, pour The Windmills of Your Mind, un an après Dans la chaleur de la nuit. Lui le rate pour De sang froid de Richard Brooks. Et puis, il y a aussi le son. C'est un acharné, un perfectionniste du son, et passer autant de temps en studio pour, à l'époque, entendre des bandes-son où tout est en mono. C'est-à-dire que sur une seule et même piste, vous avez la musique, les voix des comédiens, les bruitages. Et donc, voilà. Donc, au bout d'un moment, il s'est arrêté. Il est revenu au jazz, il est revenu à la pop-musique. Et puis, il y a Sidney Lumet, un jour, qui lui dit « Écoute, je fais un film, je reviens au cinéma, il faut absolument que tu supervises la musique du film. » Le film s'appelle « The Wiz ». C'est l'adaptation d'une comédie musicale de Broadway, elle-même adaptée du Magicien d'Oz. Mmh. Et Jones dit « Non, écoute, là, laisse-moi tomber, je veux pas. » Lumet insiste, il a raison, parce que c'est sur ce film que Quincy Jones va rencontrer Michael Jackson.
Il y aura aussi la chanson de la couleur pourpre.
Ouais. 10 ans plus tard.
Spielberg.
Ouais. Spielberg.
Whoopi Goldberg.
Parce que Quincy Jones, en fait, coproduit le film et donc il en écrit la musique.
On va se quitter avec cette chanson, cette musique, si vous le voulez bien. Merci de votre savoir encyclopédique, monsieur Stéphane Le Rouge.
N'exagère rien, Vincent.
Et pour vous faire plaisir et pour se faire plaisir, on peut s'offrir ce The Cinema of Quincy Jones. C'est paru chez Universal, bien sûr. Vous avez votre collection Écoutez le cinéma là-bas. Et ça coûte 29,99€.
TTC, c'est rien pour 6 CD. Hein.
Ça vous ressemble bien, ça. Oui. Merci beaucoup, Stéphane Le Rouge.
Honey, this show
chantait cette chanson dans ce film, Stéphane Le Rouge ?
Oh là là, Tata Vega.
Exactement.
C'était la récréation jazz de l'inspecteur Vincent Josse et demain direction le Congo où la musique est un patrimoine.